RCF, il est 6h.
Quels sont les dilemmes géopolitiques de la République islamique d'Iran ? L'élection du président Massoud Pezeshkian change-t-elle quelque chose en Iran ? Quels sont les nouveaux rapports de force intérieurs ? Que cherche aujourd'hui le régime iranien, notamment sur la scène internationale ? Quelles sont ses véritables priorités ? L'Iran a-t-il les moyens, notamment économiques et militaires, de ses ambitions ? Comment gérer la relation complexe avec la Russie et la Chine ? Dans la confrontation Iran-Israël, la stratégie iranienne a-t-elle évolué ? Et quid du programme nucléaire iranien ? Pour répondre à ces questions difficiles, nous avons l'honneur de recevoir Pierre Razou, historien spécialisé dans les conflits contemporains et les relations internationales, directeur académique de la Fondation des études méditerranéennes stratégiques. Cette émission est réalisée dans le cadre des RSMED à Toulon, avec les moyens de RCF Méditerranée.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Bonjour Pierre Razou.
Bonjour.
À propos de l'Iran, quelle est l'idée reçue qui vous irrite et pourquoi ?
Alors c'est la confusion qui est souvent en fait entre les sociétés iraniennes, turques et arabes. L'idée que les Iraniens, les Arabes, les Turcs, tout ça dans le même sac. Alors que notamment en matière de vision stratégique et d'éducation, alors que bien évidemment la société iranienne est beaucoup plus riche, beaucoup plus diverse et beaucoup plus complexe que ce que l'on peut penser. Je rappellerai que l'Iran forme davantage d'ingénieurs que l'ensemble du monde arabe réuni et que, quoi que l'on en pense, les femmes ont toujours, malgré tout, une vraie place dans la société iranienne, notamment sur le plan économique et universitaire.
Et c'est combien d'habitants l'Iran ?
C'est un peu plus de 85 millions d'habitants aujourd'hui. Certaines données statistiques, notamment avec les réfugiés, notamment afghans, parlent de 90 millions d'habitants.
Et la superficie de l'Iran ?
Là, je ne peux pas vous donner le chiffre, je ne l'ai pas en tête.
Mais c'est important, on est tous d'accord là-dessus. D'autre part, il y a des passifs entre l'Iran et ses voisins qu'il faut considérer.
Oui, bien évidemment. Je veux dire, l'Iran, c'est l'héritier de l'Empire perse, qui a été, dans l'histoire, confronté à l'Empire ottoman d'un côté, à l'Empire moghol de l'autre côté, à l'Empire russe de l'autre côté, et puis aux ambitions à la fois britanniques puis américaines au sud.
Pierre Razou, l'élection du président Massoud Pezeshkian et sa prise de fonction le 28 juillet 2024 change-t-elle quelque chose en Iran ? Et si oui, quoi ?
Ça change le fait qu'on assiste à une nouvelle alliance politique, c'est-à-dire que Massoud Pezeshkian s'est fait élire sur un agenda réformiste, mais en faisant une alliance tacite avec les conservateurs pragmatiques, je dirais pas jusqu'à dire modérés, de Mohamed Bakr Khalibaf, qui est le président du Parlement iranien. C'est-à-dire qu'en fait, les deux hommes se connaissent. Pourquoi ? Parce que pendant la guerre en Irak, ils ont été amenés à se côtoyer. Le président Pezeshkian étant médecin militaire, enfin il faisait son service militaire, c'est-à-dire en fait il était mobilisé sur le front. Et à l'époque, le général Khalibaf, qui était un petit peu le Bonaparte iranien, eh bien, c'est leur relation ont noué un petit peu comme pendant la Première Guerre mondiale, vous avez les poilus entre guillemets côté français. Eh bien, quelles que soient leurs origines sociales ou géographiques, ont été amenés finalement à nouer des amitiés, en tout cas des alliances. Eh bien, c'est un petit peu le cas de ce qui s'est passé avec Pezeshkian et Khalibaf. Donc en fait, pourquoi ils se sont entendus ? Parce qu'ils ont un adversaire commun, c'est les ultra-conservateurs qui, de leurs deux points de vue, emmènent l'Iran droit dans le mur. Donc la conséquence de cela, c'est que leur priorité, même si c'est le président Pezeshkian, donc entre guillemets les réformistes qui sont censés gouverner, ils ont bien compris que la priorité c'était le front domestique. Parce que l'Iran fait face à des défis immenses sur le plan sociétal, économique, environnemental, et que si le gouvernement, quel qu'il soit, n'est pas en mesure de satisfaire finalement les un minimum d'attendu de la population, ça se terminera mal. Donc le guide suprême Ali Khamenei l'a bien intégré et a bien vu qu'en fait, numériquement parlant, l'alliance des modérés et des, on va dire, des réformistes pragmatiques, pardon, et des conservateurs pragmatiques, de représenter un bloc pour le moment imbattable sur le plan des votes et donc sur le plan de l'approbation des différents textes et des différentes politiques au Parlement iranien. Et donc il les suit. C'est-à-dire qu'en fait, il a lui-même mis de côté les ultra-conservateurs qui, pour le moment, sont véritablement marginalisés.
Et alors, la société civile iranienne, on ne voyage pas aisément en Iran, comme chacun sait. Concrètement, quelles sont les tensions, les points de convergence, de divergence de cette société ? Au quotidien, ça fonctionne comment ?
Ça fonctionne que tout dépend de où vous vivez, de ce qu'à quelle partie de la société vous appartenez. Si vous êtes urbain, éduqué, ou si vous êtes plutôt rural et vivant dans des coins plus reculés de l'Iran, même si les grandes villes de l'Iran sont pas forcément au centre, hein, notamment la ville de Meshed, qui est à la frontière est-nord-est du pays, pas très loin du Turkménistan et de l'Afghanistan, qui est la deuxième ville du pays. Souvent, les gens l'oublient, mais c'est quand même la deuxième ville du pays, devant Ispahan et Shiraz et Tabriz. Et si vous êtes un urbain d'Ispahan, de Téhéran, de Tabriz, vous aspirez à beaucoup plus de liberté, bien évidemment. Mmh. Tous ceux qui peuvent souvent partent à l'étranger pour faire leurs études et si possible y rester. Et par contre, si vous avez votre famille, votre business sur place, la plupart des gens restent sur place. Et serre les dents et attendre des jours meilleurs.
Ouais, mais quelle est la relation avec le pouvoir ? Évidemment, elle est diverse, mais...
Globalement, je pense qu'aujourd'hui, une majorité de la population iranienne se défie du pouvoir et attendent au mieux une évolution du pouvoir, du régime.
Qui date quand même de 79.
Tout à fait, il reste solide. Et sinon, on espère probablement secrètement que ce régime disparaîtra d'une manière ou d'une autre, ou du moins évoluera suffisamment pour faire tomber le dogme du velayat al-fakhir, c'est-à-dire de la gouvernance du guide et donc de la suprématie du dogme religieux sur les affaires publiques. Et c'est parce que justement le régime iranien est bien conscient de cela qu'il a très peur d'être affaibli, notamment on en parlera peut-être tout à l'heure sur les évolutions sur la scène extérieure et notamment sur le fait que depuis le printemps dernier, Israël a quelque part humilié à plusieurs reprises, militairement parlant, en tout cas l'armée des gardiens de la Révolution, ou en tout cas les outils des gardiens de la Révolution, et que aujourd'hui, après donc malgré les frappes iraniennes donc du 13 avril dernier et du 1er octobre de cette année, les Iraniens attendent la riposte israélienne et savent qu'elle risque d'être violente, voire même de déstabiliser le régime. Et donc le régime aujourd'hui se sent menacé, probablement. Menacé par l'extérieur, paradoxalement, en se disant que si les Israéliens humilient une fois de plus l'appareil sécuritaire, en tout cas extérieur iranien, parce que le paradoxe, c'est que même si les gardiens de la Révolution sont humiliés sur le plan militaire, c'est-à-dire que les frappes de missiles balistiques sont interceptées, que à l'inverse, les raids israéliens en Iran passent et atteignent leurs effets, ça change en rien le fait que l'appareil sécuritaire, là cette fois-ci purement interne, c'est-à-dire celui des forces de sécurité intérieure iraniennes et notamment du Basij, elles sont capables de toujours faire régner la terreur, ce qui fait que les Iraniens et les Iraniennes auront peur, c'est très clair, et ne descendront probablement pas dans la rue.
Alors, ça nous amène à notre deuxième axe. Que cherche aujourd'hui le régime iranien, notamment sur la scène internationale, et finalement, quelles sont ses vraies priorités ?
Alors, donc, sur le front intérieur, on en a parlé, hein, c'est clairement le front domestique. Sur le front extérieur, immédiatement, c'est sauver la face tout en évitant un conflit majeur avec Israël, mais surtout avec les États-Unis. Parce qu'un conflit militaire direct avec Israël ou les États-Unis, les dirigeants iraniens savent qu'ils en sortiraient affaiblis, même s'ils sont capables de harceler les bases américaines autour de l'Iran et de harceler la population israélienne à par des salves de missiles balistiques. Donc statistiquement, un certain nombre traverseront le bouclier antimissile israélien et donc frapperaient la population israélienne. Malgré ça, ils savent qu'ils perdront ce conflit et que s'ils perdent un conflit militaire, ils sont en partie délégitimés, décrédibilisés et que bien évidemment, ça peut susciter la descente dans la rue d'une grande partie de la population et donc c'est le régime en entier qui est menacé. Donc ce qu'il leur faut pour éviter ça et notamment pour sauver la face, c'est restaurer une posture dissuasive au moins à minima particulièrement face à Israël par différents moyens et c'est essayer, alors là beaucoup plus largement, de faire tomber les sanctions américaines et internationales contre l'Iran ou de trouver un moyen de les contourner. Et pour le moment, les deux principaux vecteurs, outre les liens et en tout cas les deals directs entre l'Iran et un certain nombre de pays, notamment sur les livraisons d'hydrocarbures, c'est les deux cadres, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, dont ils sont membres à part entière, et notamment les BRICS+, dont ils sont membres également à part entière depuis janvier dernier, qui leur offrent finalement une bouffée d'oxygène, ce qui leur permet donc d'avoir, entre guillemets, des relations économiques par des biais divers et variés, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, avec les pays du Moyen-Orient, y compris avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, puisqu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Dubaï est l'une des principales portes de sortie, si on peut dire, de l'économie parallèle iranienne.
Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise.
Pierre Azou, on comprend bien le portrait que vous en faites, mais finalement, est-ce que l'Iran a les moyens, notamment économiques et militaires, de ses ambitions ?
Alors, sur le plan économique, il aurait les moyens s'il arrivait s'il parvenait à faire tomber les sanctions économiques, les sanctions qui frappent le pays.
Mais d'où viennent ces moyens ?
Les moyens, c'est bien entendu les hydrocarbures, c'est l'immense potentiel d'hydrocarbures et notamment de gaz. L'Iran serait l'un des trois principaux pays, détenteurs de réserves de gaz. Simplement, pour le moment, il n'a pas les moyens, alors là, pour le coût financier, d'investir dans cette technologie, dans les technologies d'extraction de gaz. Donc, en fait, si vous voulez, c'est comme s'ils étaient assis sur un tas d'or, en l'occurrence un tas de gaz, et ils attendent des rentrées financières pour pouvoir investir dans l'infrastructure gazière qui leur permettrait de mettre en exploitation et de valoriser ce potentiel immense. Au niveau pétrolier, d'améliorer leur infrastructure pétrolière qui finalement date d'une trentaine, voire d'une quarantaine d'années. Donc depuis, les technologies ont franchement nettement progressé. Donc ça leur permettrait d'exploiter beaucoup plus à fond les réserves. C'est y compris les ressources en termes d'énergie verte et notamment de solaire, ce qui ramène à la haute technologie. Les universités scientifiques iraniennes déposent régulièrement des brevets, sont plutôt très bonnes, et les scientifiques iraniens sont jugés très bons dans des tas de domaines, y compris le nucléaire, bien entendu, mais pas que. Et donc il y a un potentiel scientifique énorme en Iran. En Iran, si pour une famille, disons, de la classe moyenne, le schéma traditionnel de réussite, c'est soit devenir ingénieur, soit devenir médecin ou chirurgien. Donc, il y a vraiment un petit peu comme au Japon ou comme en Allemagne, cette culture de l'ingénieur. Et sur le plan militaire, là, à l'inverse, non, clairement, l'Iran aujourd'hui n'a plus vraiment les moyens de son ambition. Plus exactement, il pensait les avoir tant qu'il croyait dans la valeur dissuasive et efficace de son arsenal de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones. Mais les événements donc du 13 avril 2024 et du 1er octobre 2024, donc en fait les frappes contre Israël, ont montré que, appuyés par les États-Unis et les Occidentaux, Israël était capable d'intercepter la quasi-totalité de ses vecteurs. Et donc, du coup, l'Iran, qui a une armée classique, enfin des moyens classiques, si vous voulez, les chars, les avions, les bateaux, les hélicoptères, qui sont complètement obsolètes, puisque ce sont des matériels qui datent de l'époque du Shah d'Iran, c'est-à-dire qui ont globalement plus de 45 ans, entre 45 et 55 ans d'âge, c'est énorme pour un matériel de cette catégorie, savent que si la crédibilité de leurs missiles balistiques est remis en cause, tous leurs voisins directs avec qui ils peuvent avoir de vrais problèmes de voisinage, et notamment à l'Est, notamment avec le Pakistan et l'Afghanistan, voire même au Nord avec l'Azerbaïdjan, sans même parler évidemment d'Israël, vont se poser des questions et vont peut-être se dire que l'Iran n'est pas aussi dissuasif et que ce que Téhéran aimerait le faire croire.
Ça peut donner des idées.
Donc ça peut donner des idées, ou en tout cas plus que des idées, ça peut laisser penser un certain nombre d'États, notamment au sein des monarchies du Golfe, des monarchies arabes, que finalement l'Iran n'est certainement pas un tigre de papier, c'est un véritable lion en l'occurrence, puisqu'on parle du lion persan, mais qu'une partie de ses griffes quand même ont été sérieusement écornées.
Alors, comment l'Iran peut-il, dans ce contexte, gérer sa relation avec la Russie et la Chine?
Alors, souvent on présente l'Iran comme faisant partie du bloc à la fois eurasiatique et continental formé par la Chine, par la Russie, par les pays d'Asie centrale et s'étendant donc notamment à l'Iran, mais aussi au Pakistan. Et en même temps, l'Iran a une relation complexe avec la Russie. Donc, avec la Russie, l'Iran et la Russie sont partenaires sur un certain nombre de sujets, mais en même temps sont rivaux sur d'autres sujets. Typiquement, par exemple, en Syrie. En Syrie, la Russie et l'Iran ont des agendas, à part sauver le régime de Bachar al-Assad, qui, hormis cela, sont radicalement en choc frontal, ou en tout cas en opposition. Donc, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Kremlin considérait l'Iran un petit peu comme un partenaire, mais avait à son égard un sentiment de supériorité très net. Et les Iraniens, quand vous discutiez avec eux, vous disiez que globalement, en fait, ils se méfient énormément des Russes et globalement, ils n'aiment pas les Russes. Mais qu'il faut faire avec parce que c'est la réelle politique. Depuis la guerre en Ukraine, les Russes ont besoin d'armement, ont besoin de missiles mais ont surtout besoin de drones. Et donc, se tournent vers tous ceux qui peuvent leur en fournir, la Corée du Nord, mais bien entendu l'Iran. Et comme l'Iran, entre-temps, a compris que ces missiles balistiques, ce dont il avait vraiment besoin pour essayer de dissuader Israël, c'était les missiles à longue portée, disons ceux qui ont plus de 1200 km de portée, tout le reste de son arsenal, c'est-à-dire les missiles de courte portée, entre 300 et 800 km, ne lui sont plus vraiment d'une utilité flagrante. Donc en fait, il a de quoi livrer assez massivement la Russie, bien que le régime iranien se défende et en tout cas conteste la livraison de missiles balistiques à la Russie. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les Iraniens livrent une quantité importante de drones aux Russes. Et donc, quelque part, ils ont rééquilibré leurs relations. Avec la Chine, c'est plus complexe. Parce qu'en même temps, la Chine n'a jamais historiquement exercé d'ambition ou de contrôle sur cette région et certainement pas sur l'Iran. Donc, entre guillemets, les Chinois arrivent ou les dirigeants chinois arrivent vierges en terre iranienne. Mais les Iraniens se disent le but du jeu, c'est attirer et capter un maximum de capitaux chinois, d'investissement chinois, mais en prenant bien garde de ne pas tomber sous l'influence chinoise. Et quand vous discutez avec des dirigeants iraniens, ils vous disent on a subi et on est rentré en choc frontal avec les Occidentaux pendant 40 ans pour s'assurer d'une indépendance, parce que le maître mot en Iran, ça reste aujourd'hui la souveraineté et l'indépendance, donc pour rester indépendant. Donc ça n'est pas pour demain tomber sous la coupe de la Chine.
Alors Pierre Razou, pour terminer, dans la confrontation Iran-Israël, la stratégie iranienne a-t-elle évolué ?
Oui. C'est-à-dire que dans un premier temps, la stratégie iranienne consistait, alors d'abord, à pratiquer une guerre clandestine, que ce soit par attentats, tentatives d'assassinat, virus informatique, et c'était valable évidemment du côté israélien contre l'Iran, c'est-à-dire que les deux pays se livraient à une véritable guerre clandestine souterraine. Mais dans ce qui était, disons, visible, l'Iran avait recours à ses proxys, donc en fait à ses milices instrumentalisées, le Hezbollah au Liban, bien entendu, les Houthis au Yémen, et puis les milices chiites en Irak et en Syrie. Je ne parle pas du Hamas, parce que le Hamas, je pense que ça a été beaucoup plus une sorte d'utilisation de circonstances par le régime iranien contre Israël, c'est-à-dire en fait... Le Hamas a été sans doute instrumentalisé à son corps défendant contre Israël, mais il était destiné quelque part à être sacrifié pour affaiblir Israël. Mais clairement, les milices chiites en Irak, en Syrie et surtout le Hezbollah, qui était le joyau de la couronne des proxys iraniens, devaient affaiblir, c'est-à-dire harceler en permanence Israël pour l'affaiblir durablement. C'est-à-dire de telle manière que c'est pas cela qui allait fondamentalement menacer bien évidemment la survie d'Israël, mais simplement c'était un irritant permanent qui usait finalement les nerfs et le moral de la population et des dirigeants israéliens. À partir du moment où on a le 7 octobre 2023 et donc la guerre et d'abord les massacres du Hamas contre Israël, la population israélienne, puis la riposte israélienne sur Gaza, puis ensuite sur le sud Liban et le Hezbollah. Là, la donne a changé parce que Israël, finalement, a retourné la situation à son avantage, a quasiment défait le Hamas, en tout cas la branche armée du Hamas, a mis à mal très sérieusement la branche armée du Hezbollah, qui aujourd'hui est extrêmement affaiblie, avec tous ses dirigeants éliminés. Et donc, l'Iran se retrouve finalement en première ligne directe aujourd'hui face à Israël, en se demandant, d'un autre côté, l'Iran doit réagir et doit riposter ou doit agir directement pour montrer que ça reste quand même lui, entre guillemets, le chef. Et en même temps, en se disant, les dirigeants iraniens se disant, si on va trop loin... on va provoquer une escalade plus ou moins incontrôlable, et là, on risque de perdre beaucoup.
Et alors, dans ce contexte, quid du programme nucléaire iranien ?
Et donc, bien entendu, le programme nucléaire iranien, c'est un petit peu la variable d'ajustement. Donc là, tous les experts ne sont pas sur la même ligne, mais beaucoup, en tout cas, s'accordent à dire que si l'Iran et le président iranien, donc Pezeshkian, a remis le dossier nucléaire sur la table à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations unies début septembre, et a quelque part tendu la main aux États-Unis pour leur dire « nous sommes prêts à en rediscuter », dans un contexte où tout le monde sait que le JCPOA, c'est-à-dire l'accord nucléaire de 2015, entre guillemets, arrivera à échéance en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, les Iraniens disent « on veut bien négocier, faire un grand bargain, c'est-à-dire une grande négociation avec les États-Unis, parce que les autres les intéressent que très moyennement, donc avec les États-Unis pour finalement s'entendre sur toute une série de dossiers, y compris Israël, mais sur l'influence régionale, etc. Et discuter, voire même du nucléaire, du programme nucléaire iranien. Mais si les États-Unis refusent cette proposition... Le dossier nucléaire est sur la table, ce qui veut dire que s'il est sur la table, il est reconnu comme étant réel. Et que les Iraniens, le gouvernement iranien, on tirera la conclusion que s'il n'y a pas de possibilité de négocier directement avec les États-Unis pour restaurer sa posture dissuasive à la fois vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis d'Israël, mais aussi vis-à-vis de tous ses voisins et des États dotés, la Chine, le Pakistan, la Russie, eh bien l'Iran n'aura plus d'autre moyen que de sortir du traité de non-prolifération nucléaire, par exemple juste après l'extinction de l'accord nucléaire du JCPOA, et franchir le seuil nucléaire et fabriquer quelques bombes atomiques, pour recourir finalement à la stratégie nord-coréenne, c'est-à-dire que faisons la bombe et une fois que nous l'aurons faite, ben les gens accepteront de venir à la table parce que maintenant ils comprendront qu'ils devront discuter avec nous. Puis vous avez d'autres experts qui pensent sur ce programme nucléaire qu'en fait l'Iran a déjà pris la décision de franchir le seuil nucléaire et que donc tout ce qui est en train de se passer n'est que de la poudre aux yeux pour essayer de gagner du temps.
Pierre Razou, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux conseils de lecture ?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, notre atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, donc édité par la FMES, dans son édition 2024 qui vient tout juste de sortir et qui est en vente sur notre site. Mais aussi un carnet de voyage, L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran de François-Henri Désérable qui est sorti début 2024 chez Folio et qui retrace bien la réalité de la société iranienne aujourd'hui.
Merci Pierre Razou. Un grand merci également à notre réalisateur. Planisphère recevait Pierre Razou, directeur académique à la FMES. Cette émission a été réalisée dans le cadre des RSPED à Toulon avec les moyens de RCF Méditerranée que nous remercions chaleureusement. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.
Dans un instant, retrouvez la matinale présentée par Pierre-Hugues Dubois et Louis Dauphrène.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all.
RCF et Radio Notre-Dame vous proposent chaque matin le débat du jour. Plusieurs invités viennent débattre sur un sujet d'actualité. Un débat où chacun pourra donner son point de vue, mais toujours dans un climat apaisé et propice à la réflexion. Le débat du jour, c'est du lundi au vendredi, de 9h10 à 10h sur RCF et rcf.fr.
Sur RCF, suivez l'actualité internationale grâce au journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h ainsi que le samedi à 18h. Avec Radio Vatican sur RCF, restez connectés au monde.
Vous écoutez RCF à Montluçon sur le 107 FM. La matinale de RCF et Radio Notre-Dame, Pierre-Hugues Dubois.
Il y a deux jours, on a fait un petit sondage pour savoir qui était derrière le poste à cette heure-ci matinale. Et vous êtes très nombreux à vous être signalés par mail. Continuez à le faire. Si vous nous écoutez ce matin, direct@rcf.fr, nous sommes toujours très heureux d'avoir vos retours sur ce que vous pensez de cette matinale, ce que vous aimez, ce que vous souhaitez voir améliorer, même pour nous faire un petit bonjour. J'attends vos mails, direct@rcf.fr. Alors ce matin, bonjour à Aude qui nous écoute depuis Blois, Olivier dans la Nièvre, Sylvie, elle prend son petit déjeuner avec nous, Corinne, Georges, Magali, Florence, Christian à Châlons-en-Champagne, bonjour et bienvenue dans notre matinale sur RCF et Radio Notre-Dame, toujours aussi heureux de vous retrouver au réveil. Ce sont les Erasmus Day en ce moment, on en parle dans quelques minutes avec Alexandra Le Sur après votre journal et l'invité. Nous sommes le jeudi 17 octobre, côté météo, épisode cévenol intense sur le sud-est avec des pluies abondantes, ailleurs des averses orageuses se généralisent dans une atmosphère douce. Le temps est plus calme et sec sur la Bretagne et l'Alsace. On fait le point complet dans 3 minutes. Bon réveil et c'est le début de la matinale. Bienvenue. Les informations à 6h30 avec Cécile Mérieux. Bonjour Cécile.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous. Première journée d'examen du budget 2025. Hier, les députés ont commencé leur débat en commission pour remanier le texte du gouvernement. Premier vote, l'extension de la contribution des foyers à haut revenu et l'augmentation du taux de la flat tax sur les revenus du capital. Les députés ont jusque samedi pour apposer leurs pattes sur la copie du gouvernement avant le début des débats en plénière lundi. En Martinique, l'État signe un accord pour baisser les prix de certains produits alimentaires de 20% en moyenne. Cet accord, arraché hier soir au terme d'un 7e volet de négociations, ne fait toutefois pas l'unanimité. Le collectif Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes a refusé de le signer. Ce collectif, à l'origine de la mobilisation depuis plus d'un mois contre la vie chère, appelle à poursuivre le mouvement. L'armée israélienne a mené hier des dizaines de frappes aériennes au Liban. 16 personnes ont été tuées dans une ville du sud du pays, dont le maire. Les frappes ont causé d'importantes destructions près d'un mois après le début d'une guerre ouverte contre le Hezbollah libanais. Les casques bleus de la FINUL annoncent qu'un char de l'armée israélienne a tiré hier matin sur un mirador de leur base dans le sud du Liban. Cela fait une semaine que la mission de paix onusienne signale des tirs contre ces positions. 5 casques bleus ont été blessés. Israël assure qu'ils ne sont pas ciblés. Les États-Unis et les responsables de l'ONU ont mis en garde hier Israël contre une politique de famine appliquée à Gaza pour en faire une arme de guerre. Des propos que l'État hébreu a complètement récusés. 5 mois seulement après l'adoption du pacte sur l'immigration, les leaders européens se penchent déjà sur un nouveau durcissement de la politique migratoire. Ils sont réunis en sommet aujourd'hui à Bruxelles. À cette occasion, les 27 reçoivent Volodymyr Zelensky. Plus de 2 ans et demi après le début de l'invasion russe, l'Ukraine recule sur le champ de bataille. Chaque jour ou presque, Moscou annonce la prise d'un village dans le Donbass. Le plan dit pour la victoire du président Volodymyr Zelensky sera sur la table des ministres de la Défense de l'OTAN. Ils préconisent notamment une adhésion du pays à l'Alliance, mais cette dernière reste suspendue au résultat de l'élection américaine du 5 novembre. Au Nigeria, plus de 140 personnes sont mortes après l'explosion d'un camion-citerne qui s'était renversé. Une foule s'était agglutinée autour du véhicule pour récupérer du carburant qui s'était écoulé. Les forces de l'ordre ne sont pas parvenues à les repousser avant que le camion n'explose.
Merci Cécile. Et à présent, un mot de météo. On regarde le ciel sur RCF et Radio Notre-Dame. C'est la pire journée de la semaine. Dans le sud-est de la France, l'épisode cévenol est toujours intense, de grosses pluies avec des orages forts et même des risques d'inondations. 13 départements en vigilance orange allant des Pyrénées-Atlantiques à l'ouest aux Alpes-Maritimes à l'est, le Gard, la Lozère et l'Ardèche font aussi partie des concernés. Les cumuls de pluie atteignent des niveaux extrêmement importants, localement jusqu'à 450 mm en une journée dans les Cévennes. À titre de comparaison, cela correspond à ce qui est tombé ces 6 derniers mois à Brest. Sur le reste du pays, pas vraiment de répit non plus. Du sud-ouest au massif central, c'est couvert et pluvieux avec des orages ici et là. Plus calme, mais tout de même quelques gouttes sur le Roussillon et les Savoies. Au nord et en Belgique, ça démarre plutôt bien, mais ça se dégrade rapidement avec des averses orageuses cet après-midi. En région parisienne, le temps est menaçant. Les averses arrivent au cours de la journée. Partez avec un parapluie ce matin, température comprise entre 17 et 18 degrés. Jusqu'à dimanche, c'est la semaine du goût. 35e édition partout en France pour promouvoir la culture des patrimoines culinaires et le bien manger. Objectif, donner des clés pour comprendre le goût, le rôle des sens et apporter des réponses aux questions que les consommateurs se posent. C'est aussi l'occasion de rencontres entre professionnels de la terre à l'assiette avec le grand public. Et parmi ce public, les jeunes sont principalement ciblés. De multiples animations en milieu scolaire rappellent l'importance du choix des produits que nous mangeons tous les jours. Pour bien comprendre l'enjeu de l'éducation au goût, Cécile, vous recevez ce matin Faïsa Bossi, elle est médecin et nutritionniste.
Faïsa Bossi, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, comment est-ce que l'éducation au goût peut nous aider à mieux manger ?
Le goût, c'est vraiment un élément qui, à mon sens, est fondamental dans nos choix alimentaires. Ce goût, bien évidemment, il peut être éduqué. Hein. Il permet, si vous voulez, de vous sensibiliser aux saveurs. Et ceux dès l'enfance. Ça nous permet aussi de combattre les goûts artificiels et notamment les goûts comme les sucres ajoutés qui modifient un peu notre perception des saveurs. Ça permet aussi de favoriser la découverte de nouveaux aliments et puis c'est un moyen de comprendre un petit peu et de s'interroger sur l'origine des produits et de la manière dont ils sont produits au sens littéral du terme. Ça nous permet du coup d'avoir des choix qui sont beaucoup plus éclairés, finalement, et qui sont respectueux de l'environnement et de notre organisme.
Mais alors, comment encourager les enfants à adopter des comportements alimentaires vertueux qui vont souvent à l'encontre de leur penchant naturel ?
Bien évidemment, il s'agit, et c'est pertinent ce que vous dites, de passer du coup par ce que j'appellerais l'éducation nutritionnelle, et ce, dès le plus jeune âge, que ce soit à l'école et surtout à la maison. Il faut aussi que nous puissions faciliter l'accès à des produits qui soient sains, que ce soit dans les cantines, dans les supermarchés, dans la restauration collective. Et puis, le rôle des politiques, c'est de mener des campagnes de sensibilisation, c'est le cas de la semaine du goût, à la fois sur les impacts de la nourriture sur la santé et l'environnement. Et puis, il faut qu'il y ait des indicateurs économiques qui puissent subventionner, on va dire, des produits locaux et peut-être augmenter des taxes sur les aliments qui pourraient être nuisibles, ce qui est déjà proposé dans certains pays.
Alors, vous le disiez, il y a à la fois à la maison et à l'école. Est-ce que l'éducation du goût relève du rôle des parents ? Est-ce qu'il faut le déléguer à l'école ? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi d'éducation des parents ?
Fondamentalement, je dirais que c'est au rôle des parents que revient l'éducation de façon globale. Donc, il y a véritablement une sensibilisation à faire passer et un message à faire passer auprès des parents parce que ce que vous mangez, vous, en tant qu'adulte, il y a un rôle d'exemplarité au sens littéral du terme. D'abord, il faut savoir que tous les enfants ne mangent pas à la cantine pour commencer, même si les enfants entre eux, par exemple, à la récréation, en sortant, s'inculquent quelques petites routines au sens littéral. Mais c'est vraiment un rôle parental qui passe par faire goûter ses enfants, mais également les amener à cuisiner avec vous, par exemple. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement ludique que les enfants apprécient et qui développera également leur goût et une augmentation par rapport aux saveurs. Donc pour moi, c'est un rôle éducationnel parental.
Alors vous le disiez, les adultes ne sont pas forcément de très bons exemples. Les repas préparés, la cuisine rapide, on n'a pas le temps de cuisiner ou pas d'inspiration. Comment est-ce qu'on peut éduquer justement ? Est-ce que ça suffit d'éduquer au goût ou est-ce qu'il faut carrément changer nos modes de vie ?
Alors, je dirais que tout dépend de où vous en êtes dans votre équilibre alimentaire. Si véritablement on n'est pas dans un cercle vertueux alimentaire au sens littéral, il est important de repenser ses habitudes en se faisant aider par des équipes nutritionnelles, des professionnels de santé, si on a véritablement des problèmes liés à ces déséquilibres alimentaires. Mais je dirais qu'en France, de façon globale, les Français ont un rapport à l'alimentation, au côté culinaire, grand-mère qui est assez sain et donc il cuisine encore. Bien sûr, on peut toujours aller vers le plus sain sans aller vers l'orthorexie, mais ça va passer, je pense, le plus simple, je dirais, le seul conseil que je donnerais, ou les deux seuls conseils, c'est de ne jamais rien bannir de son alimentation et de préparer ses plats au maximum, parce que comme ça, vous contrôlez ce que vous mettez dans vos aliments. On peut de temps en temps avoir recours, et on est tous pareils, un peu pressés, à des aliments dits transformés, on évitera les ultra transformés, mais cela doit rester là, pour le coup, quelque chose d'assez exceptionnel.
Est-ce qu'il y a une différence avec les générations passées? Est-ce que nos assiettes se sont uniformisées? Est-ce que la diversité alimentaire s'est amenuisée?
Je dirais que oui, c'est une constatation qui est assez montrée. Avec la mondialisation et l'industrialisation de l'alimentation, il est vrai que on a une tendance à avoir des assiettes qui tendent à s'uniformiser. En fait, vraiment, on observe une standardisation des produits, avec une prévalence de certains produits en particulier que vous allez reconnaître. C'est le blé, le maïs, le riz, le sucre. Donc ça, c'est important de dire que, encore une fois, en France, on a quand même une diversité des cultures agricoles, mais que on voit qu'il y a une diminution au profit de grandes monocultures, ce qui va évidemment réduire l'accès à une alimentation qui est diversifiée, surtout dans certaines régions du monde. Donc il est important de préserver le patrimoine agricole, et on remercie les agriculteurs sans qui la semaine du goût, les produits auxquels nous avons accès ne pourront pas être dans nos assiettes, et puis favoriser bien évidemment les gens à cuisiner, à s'intéresser à ce patrimoine culinaire français qui est absolument incroyable.
Alors créée il y a plus de 30 ans, la semaine du goût est organisée par la Fondation pour l'innovation et la transmission du goût, avec le soutien du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. À quoi ça sert de faire une semaine du goût? Est-ce que ce n'est pas une question qu'il faudrait se poser tous les jours?
Alors, on pourrait se la poser tous les jours, même titre qu'on pourrait faire une journée tous les jours du bonheur. Mais je dirais que le but de la semaine du goût, c'est pour sensibiliser un peu le grand public et en particulier les enfants à la diversité des saveurs et des aliments. C'est pour ça que ça a été mis en place. Et puis, elle permet au-delà de ça d'apprendre à reconnaître et à apprécier des différentes facettes de l'alimentation, que ce soit le goût, les textures, l'origine des produits, c'est très important. Manger, ce n'est pas simplement que goûter, c'est aussi toucher, c'est aussi touiller la nourriture, etc., ce qu'on apprend en petit. Et c'est un éveil très, très intéressant. Et puis, ça participe aussi à éduquer à la nutrition, en valorisant des produits de qualité et en éveillant cette fameuse curiosité, et puis en encourageant des bonnes habitudes alimentaires qui, on l'espère, seront plus saines et plus durables.
Est-ce que les établissements scolaires ont pris en compte cette semaine thématique? Est-ce qu'il y a des ressources éducatives mises à disposition?
Je ne saurais dire s'il y a des ressources éducatives sur tout le territoire français. En tout cas, les cantines scolaires sont sensibilisées à cette semaine du goût. Et au-delà de ça, il faut savoir que les équipes scolaires qui travaillent s'équipent autour, c'est pluridisciplinaire comme conseil, avec une nutritionniste, mais également des équipes culinaires. On a aussi des directeurs qui sont particulièrement impliqués dans l'éducation culinaire de leurs petits. Les maîtresses, les institutrices font également preuve de beaucoup de curiosité et d'attention à ce sujet. Donc oui, je pense qu'il y a une sensibilisation qui est plutôt globale au sein des écoles.
Alors les goûts changent, n'est-ce pas? On peut détester les endives cuites quand on est petit et en raffoler plus tard. Comment est-ce que cela se fait? Et est-ce que vous avez des astuces pour encourager enfants et adultes à oser de nouvelles saveurs?
Alors, le goût se développe bien évidemment avec l'âge, au même titre lorsque vous avez des petits-enfants, on introduit de façon très progressive différents aliments, à la fois pour le côté un peu allergisant, par exemple pour les protéines de l'œuf, on ne les donne pas aux tout petits-petits, on commence progressivement à introduire des aliments différents, donc c'est à la fois c'est un rôle purement organique, et puis c'est vrai que il est du rôle des parents d'introduire des aliments aux enfants pour leur faire tester.
Merci Faïza Bossi. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes médecin et nutritionniste.
Il est 7h moins le quart, je vous souhaite un très bon réveil à l'écoute de RCF et Radio Notre-Dame. Dans quelques minutes, la prière du matin, et puis nous entendrons quelques notes de musique. Mais avant cela, c'est la chronique toute l'Europe. Chaque matin, on découvre l'Union européenne, ou plutôt chaque jeudi matin. Vous savez, depuis les élections européennes en juin dernier, Alexandra Lesure et Vincent Lequeux du site internet touteleurope.eu nous aident à décoder l'Union européenne, à décoder aussi et décrypter les enjeux qui sont les siens, qui sont propres. Et cette semaine, nous célébrons les Erasmus Day. Peut-être avez-vous eu l'occasion de partir avec Erasmus à travers le monde, l'un des programmes phares de l'Union européenne, un événement organisé en France, les Erasmus Day, dans le monde pendant lequel le programme de mobilité de l'Union européenne est mis en avant à travers des milliers d'événements. Bonjour Alexandra Lesure.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous.
Alors rappelez-nous Alexandra, Erasmus, ça s'adresse à qui ?
Alors Erasmus+, est depuis 1987 l'un des programmes phares de l'Union européenne. Chaque année, des milliers d'étudiants partent découvrir un nouveau pays grâce à ce dispositif, tout en continuant de bénéficier de leur cursus académique d'origine. Mais Erasmus+, ne se limite pas seulement aux étudiants, ce programme est ouvert à tous. Il s'adresse aussi aux lycéens, aux apprentis ou aux jeunes diplômés. Et il concerne également ceux qui enseignent, forment, sont à la recherche d'un emploi ou qui souhaitent devenir bénévoles. Quel que soit votre âge ou votre situation, vous pouvez donc partir en séjour Erasmus+. Il existe une seule obligation, ce séjour doit avoir un objectif d'apprentissage, de formation ou de partage d'expériences et de connaissances. On peut partir dans les 33 pays participants et dans certains cas, en fonction des partenariats de l'établissement, c'est même possible au-delà de l'Europe, puisque 168 destinations sont ouvertes à la mobilité Erasmus+.
Alors Alexandra, un point important, est-ce que l'on peut bénéficier d'une bourse ?
Erasmus+ offre l'opportunité de partir sans frais de scolarité dans l'université ou l'école partenaire, mais une bourse est aussi attribuée. Tout le monde peut en bénéficier. Son montant dépend de la destination et de la nature de la mobilité. La bourse peut aller de 225 à 1460 euros par mois, selon le secteur d'éducation, la nature de la mobilité et la destination, bien sûr. Un forfait inclusion supplémentaire est aussi attribué aux apprenants en difficulté issus, par exemple, des zones rurales, des quartiers prioritaires de la ville ou sujets à un handicap. À ces bourses, d'autres aides financières sont cumulables, comme celles des régions ou des départements.
À qui doit-on s'adresser pour se renseigner ?
Alors, partout en France, tous les candidats à la mobilité peuvent s'informer auprès des maisons de l'Europe et des points d'information du réseau Eurodesk, également des structures infojeunes du CIDJ et sur le site de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. Plus particulièrement pour les étudiants, il faut s'adresser au service des relations internationales de son établissement d'enseignement supérieur. Pour les demandeurs d'emploi, il faut contacter l'agence France Travail, une mission locale ou une maison familiale rurale. Et pour les apprentis, le référent mobilité de son organisme de formation.
Alors ça, Alexandra, c'est pour les côtés très pratiques. Mais si on prend un peu de recul, quels sont les bénéfices de ce programme de mobilité si connu ?
Alors, l'un des principaux avantages d'Erasmus+, c'est bien sûr la mobilité. En partant étudier ou travailler dans un autre pays, on s'ouvre à de nouvelles cultures, on apprend une nouvelle langue et on fait des rencontres qui changent souvent la vie. C'est une formidable opportunité d'épanouissement personnel et professionnel avec des retombées concrètes pour son avenir. Les employeurs de plus en plus valorisent cette expérience internationale. Le fait d'avoir étudié ou travaillé à l'étranger démontre une ouverture d'esprit, une flexibilité ainsi qu'une capacité à s'intégrer dans un environnement nouveau. Par exemple, 86% des apprentis français estiment qu'Erasmus+ a amélioré leur employabilité et les compétences linguistiques, professionnelles et sociales acquises sont des atouts précieux pour l'avenir.
Et c'est du 14 au 19 octobre, les Erasmus Day avec 2000 événements organisés en France et pour cette édition 2024. La thématique du sport est mise en lumière évidemment dans la foulée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci beaucoup Alexandra. En chaque jeudi, l'Europe c'est vous avec la rédaction de toute l'Europe. La bande originale du film Citoyen d'honneur, quelques notes d'Ibrahim Malouf avant notre prière du matin.
Écoute dans la nuit, Marie Leila Koussa. Pas facile d'aller vers les autres quand on est seul. Et si être à plusieurs nous rendait plus forts, vous avez la parole ce soir dès 21h dans Écoute dans la nuit.
Vous écoutez RCF au Mans sur le 101.2 et à Avignon sur le 104 FM.
Je connaissais la radio, je ne l'écoutais pas, et il y a 5 ans, j'ai découvert, et cela m'a énormément aidée, une radio de qualité, des émissions qui vraiment me touchaient à cœur, et depuis, ben, je l'écoute.
Si, comme Madeleine, RCF vous soutient jour après jour, soutenez votre radio.
Votre don est déductible à 66% de vos impôts. Rendez-vous sur don.rcf.fr.
Dans quelques minutes, nous retrouverons Isabelle Delaunay pour le Saint du jour. Avant cela, je vous propose de partager un temps de prière. Vous en avez l'habitude, nous avons changé de quelques minutes l'horaire de cette prière, désormais à 6h50. Et comme chaque matin, très simple, l'évangile du jour, un commentaire, un Notre Père et un chant. Et dans les quelques versets de Saint Luc que nous écoutons aujourd'hui, Jésus dénonce les pharisiens et les maîtres de la loi qui tombent dans le perfectionnisme en imposant un respect formaliste des rites. Jésus redonne l'esprit de la loi, les versets 47 à 54 de Saint Luc.
En ce temps-là, Jésus disait « Quel malheur pour vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles.
Voilà 3 jours que la bonne nouvelle de l'Évangile proclame le malheur. Mais si Jésus nous avertit de ce qui conduit au malheur, c'est qu'il y a moyen d'être heureux et de goûter au bonheur. Écoutons encore ce que Jésus a à nous dire à ce sujet. Malheureux sommes-nous lorsque notre cœur refuse d'accueillir les prophètes d'aujourd'hui qui nous appellent et interpellent l'Église et nos communautés. Malheureux sommes-nous lorsque nous faisons de la foi une connaissance réservée à des élus, des élites, des initiés. Nous nous fermons la porte de la connaissance du vrai visage du Christ et nous empêchons ceux qui le cherchent de le découvrir et de le suivre. Mais peut-être deviendrons-nous heureux si nous ne croyons pas détenir la connaissance du Christ et si nous savons le recevoir des hommes et des femmes de notre temps. Si nous savons le reconnaître à l'œuvre, dans le visage de tous nos frères humains qui se donnent pour la vie des autres. Heureux serons-nous si notre Église est une Église du parvis, une Église de la mêlée avec tous les hommes, qui ose regarder et aimer vraiment le monde dans lequel elle vit. Heureux serons-nous enfin si nous nous laissons appeler à la conversion par les voix prophétiques qui se lèvent dans notre monde. Et Dieu sait si elles sont nombreuses, jaillissant de toutes parts, alors que notre Église est bien malade. Rendons grâce pour tous ces frères humains du quotidien qui nous font signe et nous appellent à plus de disponibilité, de confiance, de charité, de don de soi, plus de solidarité, d'humanité, de miséricorde. Ils sont des anges sur nos routes. Ils nous révèlent, sans le connaître parfois, le vrai visage de notre Dieu qui a pris chair et prend ses délices parmi les enfants des hommes.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La communauté de Thésée pour clôturer notre temps de prière. Heureux qui s'abandonne à toi. Sœur Catherine de Coster, vous avez le commentaire de l'Évangile. À présent, nous retrouvons Isabelle Delaunay pour le Saint du jour. Bonjour Isabelle.
Bonjour, en ce 17 octobre, nous fêtons les Baudouins. D'origine germanique, ce prénom veut dire « ami hardi ». Saint Baudouin est un archidiacre de Laon, dans l'Aisne, qui meurt assassiné au 7e siècle. Notons que ce prénom a été porté par les rois de Jérusalem pendant plusieurs générations, et en particulier par Baudouin IV, dit le roi lépreux, qui a œuvré pour la paix au 12e siècle. Nous fêtons aussi aujourd'hui un grand saint, père de l'Église, évêque et martyr de la fin du 1er siècle, Saint Ignace d'Antioche. Il y avait à Antioche une communauté chrétienne importante et dynamique. Ignace était leur évêque, le second après Saint-Pierre, à la fin du 1er siècle. Le gouverneur, Pline le Jeune, le fait arrêter parmi d'autres chrétiens très déterminés et le condamne à être dévoré par les fauves durant les fêtes romaines. Pendant le voyage qui le conduisait à Rome pour y mourir, Ignace écrivit aux diverses communautés chrétiennes 7 lettres poignantes, tant elles montrent une foi inébranlable et dans lesquelles il affirme clairement ne pas craindre la mort. Il l'appelle même de ses vœux. « Mes passions, écrit-il, ont été crucifiées, et il n'y a plus en moi d'appétit pour les choses de la terre. Mais une eau vive qui murmure et dit en moi, « Viens vers le Père. » Dans ses lettres, Ignace exhorte ses frères à l'unité. « Persévérez dans la concorde, écrit-il, et dans la prière en commun, pour offrir à Dieu action de grâce et louange. » Et l'on se souvient de ces paroles mémorables, « Que je devienne la pâture des bêtes, c'est par elle qu'il me sera donné d'aller jusqu'à Dieu. Je suis le froment de Dieu. Que je sois donc moulu par les dents des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. » Certes, nous ne sommes heureusement pas tous destinés à un tel martyr, mais au travers de ces paroles fortes, c'est à l'imitation de Jésus-Christ que saint Ignace invite tous les chrétiens.
Merci beaucoup Isabelle Delaunay. En ce 17 octobre, nous pouvons avoir une pensée pour le père Joseph Wrzeski, prêtre du diocèse de Soissons d'origine polonaise, fondateur du mouvement des droits de l'homme athée des Carmons. L'association est à l'origine de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté qui a lieu aujourd'hui.
En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
À l'heure où les réseaux sont de plus en plus présents dans les procès, comment ne pas tomber dans le tribunal médiatique ? Réponse dans cette émission Quête de sens, ce jeudi à 17h.
Missionnaires ensemble. Du 13 au 20 octobre, c'est la semaine missionnaire mondiale animée par les œuvres pontificales missionnaires. le pape François vous invite à venir en aide aux diocèses les plus démunis dans leur mission d'évangélisation en Afrique, Asie, Océanie et Amérique latine et aux populations les plus vulnérables. Soutenez la mission des œuvres pontificales missionnaires en envoyant vos dons à OPM, 12 rue Sala, 69002 de Lyon ou sur opm-france.org.
Vous écoutez RCF dans la Marne, à Reims sur le 87.9, à Châlons-en-Champagne sur le 88.6, à Épernay sur le 91.6 et partout en France sur rcf.fr.
Il est bientôt 7h sur RCF et Radio Notre-Dame. Merci d'avoir choisi notre antenne ce matin. Tout de suite, on retrouve votre journal présenté au plus près de chez vous sur nos antennes par une très belle équipe de journalistes que j'ai plaisir à saluer. Le gouvernement a annoncé une hausse d'une taxe sur l'électricité pour février 2025. Les factures risquent de s'envoler. On en parle dans 10 minutes avec Jean-Baptiste Labeur pour le dossier.